Bien, nous rendons grâce au Seigneur qui a permis que nous puissions encore nous rencontrer ce jour pour écouter sa parole. Le dimanche passé, nous avons suivi un message apporté par Robert qui a fait un lien entre le tour de Babel, où il y a eu la confusion, et le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est arrivé, qui a créé l'unité du peuple juif. Et le Saint-Esprit, ce jour-là, de la Pentecôte, a donné beaucoup d'avantages. Un des avantages, c'est qu'il donne une nouvelle compréhension, une nouvelle révélation des Écritures. C'est très important. Et on a vu les différents fruits qu'a apporté la Pentecôte, quoi. Eh bien, nous allons continuer à parler du Saint-Esprit. La Pentecôte, quand on parle de la Pentecôte, c'est l'arrivée du Saint-Esprit sur le peuple de Dieu. L'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le Consolateur. Il est parti et le Consolateur est arrivé le jour de la Pentecôte. Bien, alors, dans la vie d'Israël, à un moment donné, il y a eu beaucoup de confusion. On ne savait plus qui était Dieu en Israël. Yahweh, c'est lui qui était le véritable Dieu en Israël, ou Baal, ou Astarté. Il y a eu une confusion. Alors Dieu ne veut pas laisser perdurer cette confusion. Il a élevé le prophète Élie. Élie a donné avec Akab, ils se sont entendus, ils ont pris rendez-vous sur le mont Carmel. Et sur le mont Carmel, Élie avait prié, le feu est descendu, il a consumé le sacrifice, et tout le peuple a reconnu cette fois-là que c'est Yahvé qui est le véritable Dieu en Israël. Et tout le monde s'est incliné devant ce fait que vous venez de voir, le feu. Parce qu'il y a eu 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Et lui leur avait demandé rendez-vous sur le mont Carmel. Alors, que chacun prépare son sacrifice, eux, les 850, leur sacrifice, et lui, Élie, tout seul, son sacrifice, chacun son autel. Alors, maintenant, pour qu'on sache qui est le véritable Dieu en Israël, il faut que ce Dieu, donc on prie à Dieu, le véritable Dieu, c'est celui-là qui va faire apparaître le feu et qui va consumer le sacrifice. Et tout le monde était d'accord. Et Élie a donné 850 faux prophètes, je les appelle ainsi, les prophètes de Baal et d'Astarté, qu'eux commencent. Ils ont commencé du matin jusqu'à midi, et leur Dieu n'avait pas répondu. Et Élie, à son tour, il a prié son Dieu, et après qu'il a terminé de prier, le feu est descendu, a consumé et l'holocauste, et le bois, et les 12 pierres, tout a été consumé. Et le peuple a reconnu que c'était le véritable Dieu, c'était Yahweh, l'Éternel, leur Dieu. Alors, Élie demanda qu'on égorgeât les 850 faux prophètes de Baal. Et on les a égorgés. Après qu'on les a égorgés, Jézabel, qui n'était pas arrivée à ce rendez-vous, seulement son mari qui est arrivé à Cab, s'était mise en colère parce que son mari lui a fait le compte de ce qui s'est passé. Elle était en colère parce que ce sont ces prophètes qu'on a tués. Jézabel, c'est une fille d'un peuple étranger qui n'est pas le peuple d'Israël. Et son père s'appelait Etbal. Etbal veut dire Baal est vivant. Vous vous rendez compte? C'est la fille de Baal est vivant, le monsieur qui s'appelait Baal vivant, qui va devenir la femme de Jézabel. Voici encore une... Pourquoi Dieu avait interdit aux enfants d'Israël d'épouser des femmes d'autres tribus, des tribus étrangères. Parce que ces femmes-là, quand vous les épousez, elles viennent avec leur Dieu. Et il y a un risque de séduction. Et c'est ce qui est arrivé. Maintenant, il y a une confusion totale en Israël. Alors, après qu'on égorgea les 850 prophètes de Baal et d'Astarté, Jézabel se met en colère et va dire à Élie, « Ce que tu as fait des prophètes, moi aussi, demain, aujourd'hui, je ferai de toi aussi ce que tu as fait des 850 prophètes. » Alors, Élie connaissait bien cette femme-là, Jézabel, c'est une femme terrible. Hein? Alors, il a eu peur pour sa vie. Il était excédé. Alors, il a quitté la ville de Jérusalem et a demandé la mort. Alors, à ce moment-là, Dieu va lui permettre d'aller oindre quelqu'un qu'il a choisi, Élisée. Amen. C'est d'Élisée que je vais devoir parler, je vais partager avec vous ce matin. Alors, Élisée va assister à l'enlèvement de Élie. Ce que nous allons lire dans Deux Rois. Je veux dire 1 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Qu'est-ce que je dis? 1 Rois chapitre 2. Pas 2. 1 Rois. 1 Rois chapitre 2, versets 1 à 15. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Deux Rois chapitre 2. Bon, voilà. Moi, j'ai vu un chiffre, hein, ce qui m'a trompé, voilà. C'est Deux Rois, voilà. Deux Rois. Deux Rois chapitre 2, versets 1 à 15. OK. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel vivant est ton âme vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. L'un des fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il dit, il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Et il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vas pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Le thème de mon message, c'est la double portion de l'esprit. La double portion de l'esprit. Voilà la demande d'Élisée. À Élie qui lui demande, « Demande ce que tu veux que je te fasse, que je te donne. » Bien-aimé, le chemin de la bénédiction est souvent jonché des obstacles. Élie, le maître d'Élisée, demande à son successeur, à son fils, de rester, que lui, le Seigneur, l'a envoyé dans différentes villes, Bethel, Jéricho, Jourdain, et il demande à Élisée de rester. Élisée dit non. Aussi longtemps que ton âme est vivante, moi, je ne te laisserai point. Je serai avec toi. Il a refusé de tempérer à la demande d'Élie. Entre-temps, il y a eu les fils des prophètes qui, eux aussi, avaient reçu le message selon lequel Élie allait être enlevé. Et il disait, Élie, Élisée, Élisée, tu sais, mais ton maître, il serait enlevé aujourd'hui, dessus ta tête. Il dit, mais taisez-vous, je le sais aussi. Ici, parce qu'à cette époque-là, les fils des prophètes, c'était une école des enfants, des gens qui étaient des prophètes, qui s'y rassemblaient et qui étudiaient les Écritures. Et alors, avoir Élie, Élisée, qui était maintenant à côté du prophète, de l'homme de Dieu, Élisée, qui était élevé par Dieu, je ne sais pas, problème de jalousie, je ne sais pas quoi, mais alors maintenant, ils ont trouvé une occasion de se moquer d'Élisée, parce que son maître allait être enlevé. Maintenant, tu faisais la tête, tu fais l'orgueil, tu es gonflé à cause d'Élie. Maintenant, il va être enlevé. On verra ce que tu vas devenir. Alors, tout ça, c'était un peu comme des obstacles pour décourager Élisée. Et Élisée, à son tour, répliquait, « Je le sais, taisez-vous. Moi aussi, je le sais, qui sera enlevé aujourd'hui. » Alors, Élie était déterminé. Élisée était déterminé. Sa détermination a fait que Élie, à son tour, il va dire voilà. Parce que je t'ai demandé de rester à Bethel, tu ne l'as pas fait. À Jéricho, tu ne l'as pas fait. Au Jourdain, non plus, tu ne l'as pas fait. Tu as persévéré jusqu'à ce moment. Alors, il dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Voilà la demande d'Élisée. Double portion. Bien-aimé. Voyons grand, visons haut, ne limitons pas Dieu. Souvent, nous avons tendance à limiter Dieu. Dieu, notre Dieu, il est tout puissant. Il est capable de tout. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne réalisons pas la grandeur de notre Dieu. Nous ne réalisons pas la puissance de notre Dieu. Ici, Élisée a vu son maître accomplir beaucoup de miracles. Et il était très impressionné. Alors lui, à son tour, il demande non seulement qu'il fasse comme lui des miracles, comme son maître, mais lui est allé beaucoup plus loin. Il a vu grand. Il a demandé le double. Alléluia. Le double de la, donc le double de la portion de l'esprit qu'avait Élie. Il demande le double. Amen. Il faut voir grand. Nous nous voyons souvent petits. Parce que nous réduisons Dieu à notre niveau. Dieu n'est pas un homme. Il est Dieu. Il s'appelle Dieu le Tout-Puissant. C'est lui le Créateur du ciel et de la terre. Essayez un peu de voir, observer la nature. Même pas la nature. observe l'anatomie d'un être humain. C'est très complexe. Hein? C'est très complexe. Allez dans les hôpitaux. Quand, par exemple, on doit faire une opération, par exemple, du cœur ou bien au niveau du foie, bon, je ne sais pas, au niveau de l'intérieur. Voilà l'attelage, le matériel sophistiqué qui est mis dedans pour un seul organe. Voyez les appareils que l'homme a inventés pour pouvoir soigner un organe de l'homme. C'est très complexe, l'homme. Le sang, jusqu'à aujourd'hui, l'homme n'est pas encore arrivé à fabriquer le sang. Nous voyons le sang. Mais il y a une tentative, mais on n'arrive pas encore. Donc l'être humain, c'est très complexe. C'est Dieu qui a créé. Mais non seulement l'homme, voyez la nature, ce qui se passe dans la nature. Il y a des choses que l'homme n'est pas encore arrivé à découvrir. Bien-aimé, visons haut, voyons grand. Notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Alors, bien-aimé, Élisée demande la double portion. Et quand Élie était enlevé dans le tourbillon, l'a laissé tomber son manteau. Avec son manteau, Élie, quand ils sont arrivés au fleuve Jourdain, il a enlevé son manteau, il a frappé les eaux, et les eaux se sont séparées en deux. Ils ont laissé un passage à sec. Ils ont traversé à sec. Maintenant, au retour, Élisée, qui a vu son maître partir, elle a essayé de crier. Et par la suite, il verra le manteau d'Élie. Tu vois la douleur de séparation. Il a vu son maître partir. Il est désormais seul. Il va quand même ramasser le manteau de son maître. Et il va devoir rentrer. Il doit rentrer maintenant à la ville où ils étaient avec... À Gilgal, quoi, où ils étaient avec Élie. Alors, quand au retour, arrivé au niveau du fleuve Jourdain, les 50 fils des prophètes étaient de l'autre côté sur la montagne, étaient en train de le regarder. Il dit voilà, son maître maintenant enlevé. Il faisait le gros dos parce qu'il était à côté d'Élie. Maintenant, Élie est parti et on verra maintenant ce qu'il va devenir. Maintenant, il y a le fleuve. Élie, lui, c'est un prophète, lui. Il a fait un miracle. Les autres sont partagés en deux. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? On va voir ce qu'il va devenir aujourd'hui. À son tour, il prend le manteau d'Élie et dit, où est le Dieu d'Élie? Et les autres sont partagés. Un passage était libéré. Élie est passé. Les 50 prophètes se rendent compte que voilà, l'esprit d'Élie est maintenant dans Élisée. Donc, il est capable de faire le même miracle comme Élie. Tout de suite, ils sont allés s'agenouiller devant lui. Alléluia. Ils sont allés s'agenouiller devant lui. Ils reconnaissent en lui quelqu'un de puissant, quelqu'un qui a l'esprit d'Élie, parce qu'ils tous reconnaissaient Élie comme un grand prophète. Bien-aimé, aujourd'hui, tous ceux qui se moquent de toi, toi persévères dans le chemin du Seigneur. Demain, il viendra s'agenouiller devant toi. Alléluia. Voilà, Seigneur, la parole de Dieu, elle est bonne. Elle nous donne des leçons. On voit ici Élisée qui ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas découragé. Il a persévéré. Il est déterminé. Jusqu'à ce que, au moment où maintenant Élie devait maintenant être enlevé, il va lui demander. Ils étaient maintenant à deux. Les fils de prophète n'étaient plus là. Il dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Amen. La détermination d'Élisée l'a amené jusqu'à ce point-là. Et le fils des prophètes qui se moquaient de lui n'était plus là. Et il a eu ce qu'il voulait. Amen. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimé, David a dit dans le psaume 60, verset 14, qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Comment allons-nous faire des exploits? D'une manière humaine comme ça? Non! Il faut être plein de Saint-Esprit. Il faut même avoir l'ambition, comme Élisée, d'avoir la double portion de l'Esprit. C'est ça qui va nous permettre de faire des exploits. C'est possible aujourd'hui. C'est possible. C'est David qui l'a dit. C'est seulement pas pour David. Pour nous aussi aujourd'hui, nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes capables de faire des exploits. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 14, verset 12. C'est pour ça que nous allons le lire. Jean 14, verset 12. Parce que nous avons toujours l'habitude de voir Dieu en petit, de le réduire à notre niveau, à notre hauteur. Mais Dieu est beaucoup plus grand, mon bien-aimé, comme je venais de vous le dire. Dans Jean 14, verset 12, nous lisons ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Et il en fera de plus grandes. Jésus nous a donné cette possibilité de faire des œuvres plus grandes que celles que Jésus a faites. Amen. Jésus ne s'est pas limité à dire, voilà, moi je suis le Fils de Dieu, je fais des œuvres, et vous, qui allez croire en moi, vous en ferez des tout petits. Non, il a donné la possibilité que nous puissions faire des œuvres plus grandes que celles que lui a faites. Amen. Amen. Bien-aimé, changeons notre façon de voir les choses. Jésus nous fait, donc, a laissé la possibilité de voir les choses en grand. Et c'est ça la vision qu'a eu Élisée. Pour ce pas, l'Esprit de Dieu a vu les choses en grand. Il a vu que son Dieu est grand. Son Dieu, il est capable de tout faire. Il est capable de tout. Et elle a demandé la double portion. Et elle a reçu. Si vous comptez les miracles, Élie en a fait 7. Élisée en a fait 14. Le double. Double portion qu'elle avait demandé. Amen. Et Jésus nous donne cette possibilité ici. À l'instar de David, David dit que nous, avec Dieu, nous ferons des exploits. Jésus nous dit que vous ferez, ceux qui croiront en moi, feront des œuvres plus grandes parce que je m'en vais au Père. Est-ce que nous faisons des œuvres grandes? Nous, enfants de Dieu aujourd'hui, nous, serviteurs de Dieu aujourd'hui, le faisons-nous? Pourquoi nous ne le faisons pas? C'est-à-dire, la balle est dans le camp de Dieu, mais dans notre camp. Chacun va répondre. Bien-aimé, Élie en a accompli 7, Élisée 14. Les miracles, c'est une bonne chose. C'est ce qui prouve la puissance de Dieu. Nous voyons que les miracles attirent les foules. Si nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 4 à 8, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 4 à 8, nous lisons. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour une personne importante, pour un personnage important, oui, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Bien-aimés, ici vous voyez, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, les miracles attirent les foules. Et quand les gens viennent voir ce qui s'est passé, ils sont touchés et il s'est converti sur Seigneur Jésus-Christ. De même, quand Pierre et Jean, devant le portail du temple de Jérusalem, le paralytique qui était là, en train de demander, Pierre et Jacques sont arrivés, ils ont dit, nous n'avons rien à te donner. Mais ce que nous avons à te donner, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le paralytique s'est levé et a commencé à marcher. Amen. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Dans Jean, acte 3, verset 11. Nous lisons ceci. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné a couru vers eux. Au portique dit de Salomon. Vous voyez? Le monsieur, tout le monde le voyait devant le temple, la porte, le portail. Maintenant, il est debout. Il commence à sautiller. Il marche. Mais tout le monde était étonné. Alors le peuple a été attiré par ce qui venait de se faire. Les miracles, c'est important. Sortir les foules. Et quand les foules viennent, elles sont frappées par ce qui se passe, des choses extraordinaires, donnent la vie à Jésus. Voilà ce qu'il nous faut aujourd'hui, bien-aimés. Nous devons rechercher la double portion, comme le cas d'Élisée, pour que nous soyons capables d'opérer des miracles qui vont attirer les foules vers nous. Et ces foules, quand elles viendront, elles seront frappées par la puissance de Dieu et vont donner la vie à Jésus. C'est ce qui manque aujourd'hui, bien-aimés. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Jésus lui-même a donné la possibilité que nous pouvons faire des œuvres plus grandes. La possibilité est donnée. Ce n'est pas limitatif. Jésus n'a pas dit, comme je suis fils de Dieu, j'ai accompli des choses grandioses, et vous, à vous, cela ne nous est pas donné. Non! Nous avons cette possibilité. C'est à nous, c'est bien aimé, d'accomplir les critères que Dieu donne ici. Pour que nous soyons capables d'accomplir des choses merveilleuses, des grandes œuvres, des œuvres extraordinaires, qui sortent de l'entendement des êtres humains, au-delà de l'intelligence des êtres humains. Parce que vous savez, excusez-moi, l'enfant naît aveugle. Les disciples ont demandé, mais cet enfant est né aveugle. Ce sont ses parents qui ont péché ou bien lui-même. Jésus a dit, ni lui, ni ses parents. Alors, il dit, il est né comme cela pour manifester les œuvres de Dieu. Maintenant, quand Jésus a fait de la boue, et cet enfant a commencé à voir, les pharisiens, les serviteurs de Dieu à cette époque-là, n'ont rien compris. Ils l'ont fait venir. Comment fait-il que tu vois maintenant? Il dit, un homme qu'on appelle Jésus, m'a fait de la boue, il m'a demandé d'aller me laver, je vais aller se lever, il me suis lavé et je vois. Ah, c'est tout, oui, c'est tout. Ah non, mais ce Jésus-là, c'est un pécheur. Rends gloire à Dieu. Il dit, mais c'est ce que je viens de vous dire. Ah non. Donc, ils n'ont pas compris. Ils sont allés voir les parents. C'est vrai, c'est votre enfant. Il dit, mais c'est lui, vous posez-lui la question. Il va vous dire comment il voit. C'est ce que nous savons, que notre enfant était né aveugle. Maintenant, il voit. Comment? Mais nous ne savons pas, demandez-lui. Parce qu'il aussi, il avait peur que si jamais ils disent que c'est Jésus, on va les chasser du temple. Ils viennent encore, ils demandent, mais je vous l'ai déjà dit. Donc on appelle Jésus, il m'a fait de la boue sur les yeux. Il m'a demandé d'aller me laver, ou le voir sur le haut. Je me suis lavé, et maintenant, je vois. Est-ce qu'ils ont compris? Ils n'ont pas compris. Comment est-ce que le fait seulement de se laver, les globules des yeux rentrent? Comment? Amen. Donc, nous avons la possibilité de faire extraordinaire. Qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire des choses qui sont hors d'atteinte de l'intelligence humaine. Nous avons cette possibilité, cette capacité, par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, je bâtirai mon église, et son église a été bâtie le jour de la Pentecôte, le jour où l'église a commencé à être bâtie. Et l'objectif, parce que Dieu veut que tout le monde arrive à la connaissance de la vérité. Quand il avait ses disciples, il dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Les occultistes, les sorciers, les ivrognes, les bandits du grand chemin. Tout le monde est appelé à croire en Jésus-Christ, à être sauvé. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu n'a pas laissé une catégorie de personnes que voilà, ceci ne peut pas croire à moi. Non. Nous devons aller annoncer la parole de Dieu à toute personne. Parce que c'est la volonté de Dieu. Jésus a dit, il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup de places là-bas. Et ces places, c'est pour qui? C'est pour toi, c'est pour moi. C'est pour tous les autres qu'on appelle des êtres humains sur cette terre. Il est question seulement que l'Évangile les atteigne, s'ils ont la grâce de Dieu, qu'ils acceptent Jésus-Christ. Nous voyons un cas des gens qui étaient pleins de Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. On a vu des choses qu'ils ont faites. Paul et Silas, dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Actes des Apôtres, chapitre 17. Versets 5 à 9, nous lisons. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville, et se rendirent à la maison de Jason et y cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émirent la foule et les magistrats, qui ne les laissèrent aller, Jason et les autres, qu'après avoir obtenu d'eux une caution. » Bien-aimés, vous entendez? Paul et Silas, c'est le serviteur de Dieu, c'est dans le Nouveau Testament. Ils étaient pleins du Saint-Esprit. Et ils ont mis le monde sens dessus, sens dessous. Amen. Deux, Paul et Silas. Et on ne voulait pas d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pleins du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu bien-aimé que nous sommes capables de bouleverser ce monde. Nous sommes capables. Nous sommes capables. Voilà. Ici, le témoignage est donné pour les Silas qui ont bouleversé le monde. Et ici, bien-aimé, Paul constitue un bel exemple pour nous. Quand il dit, s'adressant aux Corinthiens, que ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que la foi des Corinthiens soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Bien-aimé, notre foi doit reposer sur la puissance de Dieu et non sur des discours persuasifs de la sagesse. C'est toi et moi qui sommes appelés à produire des discours qui vont être accompagnés de démonstrations d'esprit et de puissance. Et Jésus nous l'a donné, cette possibilité. Je m'en vais au Père. Alors, j'ai fait des œuvres, mais vous en ferez des plus grandes. Où sont les grandes œuvres qui dépassent les œuvres de Jésus-Christ aujourd'hui? Où sont-elles? Alors Paul le dit bien. Ma prédication ne reposait pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais une démonstration d'esprit de puissance. Encore faut-il que la foi soit rencontrée par la parole. Quand on n'a pas la foi, la parole n'aura pas d'effet. Bien-aimés, la puissance de Dieu est supérieure à la puissance de Satan. Nous revenons dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 9 à 13. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 9 à 13. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se furent baptisés. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Philippe. La Bible aussi, on dit, on l'appelle la puissance de Dieu, la grande. Par les signes qu'il opérait. Alors, les gens étaient souvent étonnés par tout ce que Simon le magicien en train de faire. Maintenant, il vient Philippe. Philippe qui était plein de Saint-Esprit. Alors, lui, à son tour, il fait des œuvres, lesquelles œuvres des miracles qui sont beaucoup plus grandes, plus impressionnantes que les miracles que faisait Simon le magicien. Oui ou non? C'est oui, c'est ce qui s'est passé. Simon le magicien faisait des œuvres, des miracles, et les gens étaient bluffés. Ils étaient là en train d'être étonnés. Et il a fait cela pendant longtemps, Simon le magicien. Mais quand Philippe vint, lui qui avait en lui l'esprit supérieur, comme on l'a dit dans Daniel. Daniel avait l'esprit supérieur, donc aux magiciens, tous ces gens qui entouraient le roi Nebuchadnezzar. Philippe, à son tour, avait aussi un esprit supérieur. Quel est cet esprit supérieur? C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Alors, Philippe lui-même s'est ravisé, a vu que les miracles de Philippe étaient beaucoup plus authentiques, étaient beaucoup plus sérieux que les siens. Lui, à son tour, lui-même, crut à Jésus, le maître de Philippe. Amen. Il crut. Philippe lui-même, il a cru. Il a vu que la puissance que détenait Philippe était beaucoup plus grande que la sienne. Il a donné la vie à Jésus. Amen. Comment ça peut se faire si jamais nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas capables de faire des œuvres plus grandes qui vont impressionner les occultistes de ce monde? Comment y croiront-ils? Or, ici, il y a le magicien, Simon, qui faisait des œuvres qui impressionnait les gens. Et on appelait la puissance la grande. Maintenant vient Philippe. On met les deux côte à côte. Philippe vient. L'esprit qui était en Philippe étant supérieur à l'esprit qui était dans Simon le magicien, Philippe a fait des œuvres qui ont étonné même le magicien. Alléluia. Même le magicien, Simon le magicien était étonné. Alors lui, au son tour, il crut, il a abandonné ses œuvres, sa magie, il a abandonné. Amen. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu dont il est question, qui est venu au jour de la Pentecôte, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Mais, il faut le désirer. Jean disait, Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39, l'Esprit, nous devons le désirer. Et nous devons le demander, comme Élisée a demandé une double portion. Et il lui était accordé. Comptez les miracles. Élie en a fait 7, lui en a fait 14. Alors, Jésus dit quoi? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. La soif. Vous avez soif? Beaucoup de gens n'ont pas soif aujourd'hui. Si vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, donc vous êtes passé par la repentance. Vous obéissez à la parole de Dieu. Vous obéissez au commandement de Dieu. Et si vous avez soif, soif, vous demandez à Dieu, Dieu vous l'accorde. Beaucoup n'ont pas soif. Ayez soif. Si vous avez soif, Jésus dit, si quelqu'un a soif, tu as soif d'avoir l'Esprit Saint, sans mes yeux, Dieu est prêt et Dieu est prêt. Voilà. Demandez, on vous donnera. C'est un privilège que nous avons, nous, enfants de Dieu. Nous qui avons accepté que Jésus est Seigneur. C'est à nous qu'il t'a accordé ce privilège-là. Amen. Ce n'est pas un privilège pour les païens. Non. C'est pour nous. Bien-aimés, ayons la vision d'Élisée, qui a visé plus haut, qui a vu grand. Nous aussi voyons grand. Voyons que notre Dieu est grand. Il est tout puissant. Demandons-lui, Saint-Esprit, il va nous l'accorder. Sans mesure, et nous serons capables de drainer des foules et d'amener des gens à Jésus. Et c'est ce que Dieu attend. Parce que lui-même, Jésus, était plein de Saint-Esprit. Il attend que toi et moi, nous ayons soif, nous lui demandions, pour que nous puissions à notre tour être plein de Saint-Esprit. Et à ce moment-là, aussi bien, mes aimés, ceux qui sont timides, l'Esprit de Dieu venant en eux, ils auront la nouvelle révélation des Écritures. Et à ce moment-là, nous saurons exploiter cette parole pour amener les gens à la foi en Jésus. Que le Seigneur nous aide. Amen.